Il y a des moments, lorsqu'il y a des événements qui se passent, on voit tout ce qui se passe en surface, et en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent par derrière et par en dessous. Et ça, c'est ce qui s'impose à moi ce matin, après avoir vécu ce week-end, d'une part le mariage d'Anne-Laure et Mathieu, mais aussi de vivre ce culte avec vous. Parce que hier, au mariage, ce qui avait absolument, moi je trouvais, d'extraordinaire, en plus de la beauté du mariage d'Anne-Laure et de Mathieu, et d'entendre leur amour, c'était de voir toutes ces personnes qui se rassemblaient d'églises différentes, qui s'étaient connues au cours des années, qui avaient vécu des camps ensemble, des conventions, qui se connaissaient depuis tellement longtemps. Et là, je me suis dit, waouh, l'Église de Jésus-Christ, qui va bien au-delà de nos quatre murs ici. Et puis ce matin, lorsque Craig était là devant, puis il dit, je regarde tout le monde et il y a plus de la moitié des personnes que je ne connais pas. Et là, je me dis encore merci à vous, les visiteurs qui venez ce matin, parce que vous nous faites encore contempler que l'Église de Jésus-Christ est bien plus que ce que nous vivons ici à Prévesin. Et c'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Et nous, ce matin, ce qu'on voulait faire aussi, c'était saisir l'occasion de la visite de Reynald Kosicki, qui est avec nous de la région parisienne. Il était venu pour le mariage parce qu'il connaissait Mathieu. Il avait été pasteur dans l'église où Mathieu était fréquentait lorsqu'il était à Palaiseau. Et donc on s'est dit, c'est l'occasion aussi peut-être d'inviter Reynald à venir parler et nous apporter la parole du Seigneur ce matin. Alors beaucoup d'entre nous ne connaissons pas Reynald, peut-être les membres de la famille Bourgeois un peu plus, mais Reynald a été pasteur depuis de nombreuses années. Il était pasteur à Gap, il a été pasteur dans la région parisienne à Palaiseau, il est maintenant pasteur à l'église des Gobelins. Il est membre aussi de tout un réseau qui travaille parmi les églises, dans les églises des communautés et des assemblées évangéliques de frères. Et puis hier, j'ai découvert aussi qu'il était membre du conseil d'administration d'un établissement, la faculté de Vaux-sur-Seine, qui me tient beaucoup à cœur, puisque mon père était le fondateur, mais de savoir que lui aussi œuvre maintenant à ça. Et là, de nouveau, je contemple ce que le Seigneur fait dans son église. Et tout à l'heure, on a chanté « Je ne pourrais imaginer ». Je ne pourrais imaginer. Et tout à l'heure, on chantait « Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour mon péché ». Mais je crois que aussi ce matin, on peut se dire « Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'est la richesse et la diversité du corps de Christ dans le monde ». Merci à vous qui nous visitez ce matin. Merci Reynald, je te laisse la place et nous t'écoutons avec joie.
Merci John pour cette introduction. C'est une joie donc pour ma femme et moi de pouvoir vivre ce culte avec vous ce matin. C'est vrai, dans un contexte très festif, là, après ce mariage d'hier et le retour tard dans la nuit. Alors c'est vrai qu'il faisait bien chaud, n'est-ce pas? Alors j'ai apprécié le retour à 1h30 du matin. On a fait un plongeon dans la piscine de Jean-Paul, là, c'était agréable, n'est-ce pas? Alors c'est avec joie donc que j'aimerais donner quelques mots de témoignage. On m'a demandé si je pouvais donner quelques mots de témoignage et puis ensuite vous apporter une méditation sur un texte de Colossiens, chapitre 2. Alors quelques mots donc de témoignage, là il a donné mon parcours très rapidement, hein, de lieu où j'ai été pasteur. Avant cela j'étais quelques années enseignant en informatique sur Grenoble et sur Saint-Étienne, c'est là que j'ai rencontré ma femme à Firminy. Et puis donc avant cela j'ai eu un petit vernis, on va dire, catholique quand j'étais enfant, j'allais au catéchisme. Mais très vite, j'ai suivi la religion dominante de la ville où j'habitais, que suivaient la plupart des jeunes. C'était le rejet de Dieu. C'était une religion qui consiste à mettre l'homme, l'être humain, à la place de Dieu. Et donc là-bas, ce qui était très, très développé dans la ville où j'ai grandi, c'était l'alcoolisme et le communisme aussi. Et voilà, et surtout le mépris de Dieu. Moi, je jouais, ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais je jouais dans un petit groupe de hard rock à l'époque. J'avais les cheveux un peu plus longs, hein, un peu plus nombreux aussi. Et dans ce groupe de hard rock, je me souviens, j'ose même pas me rappeler de ces périodes-là, quoi. C'était, on chantait en public des paroles, mais vraiment blasphématoires, quoi. On se tournait en dérision tout ce qui parlait de Dieu. Mais en fait, je me rends compte avec du recul que c'était beaucoup plus par ignorance. ignorance, parce qu'en fait, je ne connaissais quasiment rien de Dieu. Il y a eu une quête, une recherche, parce que l'athéisme, en fait, ne répond pas beaucoup aux grandes questions du sens de la vie, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il y a après la mort, d'où nous venons. L'athéisme est extrêmement muet sur toutes ces questions. Et donc, j'ai essayé de chercher, et c'était dans la philosophie qui m'a amené très vite à la philosophie ésotérique, à l'occultisme. Par des chemins vraiment bizarres, j'étais amené à entendre parler de la Bible. De la Bible, j'ai rencontré des chrétiens sur Grenoble à l'époque, quand j'étais étudiant. Je fais très très court, mais un soir, alors que j'avais entendu parler des choses de Dieu, j'avais rencontré des chrétiens évangéliques dans cette ville de Grenoble. Et j'avais commencé de lire la Bible moi-même, parce que je me rendais compte qu'on m'avait complètement caché que la Bible était l'un des grands monuments de la littérature, en tout cas occidentale, un des piliers, on va dire, avec la philosophie grecque, le droit romain. Il y a trois ou quatre grands piliers de la construction, on va dire, idéologique occidentale, et la Bible joue une place extrêmement importante dans l'histoire. Je l'ai découvert par la suite, en étudiant un peu plus l'histoire ou la philosophie. J'ai commencé à lire la Bible, mais c'est vrai que j'étais aveuglé jusqu'à un jour précis. Je me souviens vraiment de ce soir-là, ça a marqué ma vie comme probablement aucun autre jour n'a marqué ma vie. Et ce soir-là, donc j'avais, bien sûr, je connaissais des choses, je commençais à m'approcher de Dieu, de deviner que Dieu existait. J'avais plus ou moins découvert ça dans l'ésotérisme, dans la franc-maçonnerie, ou plutôt les rosicruciens. J'avais entendu parler et déduit que Dieu devait certainement exister, que le monde n'était pas simplement le fruit du hasard. Mais là, ce soir-là, dans ma petite chambre universitaire à Grenoble, il s'est passé quelque chose de vraiment surprenant. Il y a eu vers 23h à peu près, 23h30, je suis rentré chez moi et j'étais un peu là, fatigué. J'étais dans une phase de recherche spirituelle et je m'étais mis à genoux et j'invoquais ce Dieu qui me paraissait encore très lointain. Et ce soir-là, j'ai vécu quelque chose qui m'a surpris, c'est que j'ai revu plein d'images de ma propre vie. À l'époque, j'avais 21 ans, je n'avais pas un long parcours, mais n'empêche que j'ai revu de manière très forte, un peu comme des gens racontent là, quand ils ont un accident de voiture, là, ils voient défiler leur vie du début à la fin, là, de manière un peu surnaturelle. Moi, ce soir-là, j'ai vu plein d'images défiler de ma vie. Mais de manière surprenante, je n'avais jamais vécu une expérience comme ça. Et ce qui m'avait frappé dans ces images de mon propre passé qui défilaient, c'était l'égocentrisme de ma vie. Combien toute ma vie était centrée sur le moi. Combien mon être, combien mon moi était surdimensionné, était extrêmement développé, et combien le mal et la révolte, il y a une sorte de dimension nauséabonde qui me paraissait évidente dans ma personnalité par rapport à, et c'est la première fois que je ressentais ça, la sainteté de Dieu. De manière sans qu'on m'explique, là seul, en revoyant ma vie défiler, j'ai pris conscience en même temps de la sainteté de Dieu. Et puis, en prenant conscience de cette sainteté de Dieu, de mon propre péché, eh bien, il y a eu un sentiment d'être totalement indigne, de me voir, mais totalement noir devant Dieu, très très sale, et de prendre conscience que, au fur et à mesure que la sainteté de Dieu se dévoilait à moi, de prendre conscience à quel point j'étais vraiment impur devant Dieu. Et ce soir-là, j'ai eu un sentiment, je crois aussi pour la première fois, d'une envie de disparaître, de presque un sentiment de mort qui a commencé à me prendre devant la sainteté de Dieu. Je me sentais d'une saleté et je me disais que là, je ne pouvais pas supporter la présence de Dieu. Et donc, c'est resté encore très très frais dans ma mémoire, hein, pourtant ça remonte à un certain nombre d'années, là, 32 ans à peu près. En même temps que se passaient ces choses, sur l'espace de, je dirais peut-être une heure, j'ai vécu ça, j'ai eu le sentiment très fort, alors qu'on me l'avait expliqué avant, et je tournais sans dérision. Je me souviens, quelques jours avant, quelqu'un me parlait de la croix de Jésus-Christ. que Jésus était mort pour nos péchés. Moi, je tournais ça, je disais, mais n'importe quoi, y a pas, qu'est-ce que tu racontes Et là, ce soir-là, alors peut-être que la discussion, là, quelques semaines après, avait fait son effet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, ce soir-là, devant la sainteté de Dieu et devant une prise de conscience de la noirceur de mon être, il m'est venu à l'esprit de manière vraiment très claire ce verset de Jean 3,16, ou en tout cas la pensée qui est exprimée dans Jean 3,16, que Dieu m'a aimé, que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, qu'il a livré son Fils pour moi. Et ce qui s'est passé pour moi, alors que c'est beaucoup plus tard que je l'ai étudié dans la théologie ou en étudiant beaucoup plus ces textes, que je l'ai compris un peu plus, mais là, j'ai pris conscience de quelque chose d'extraordinaire, c'est que la noirceur, la saleté de mon être, qui méritait le jugement et la condamnation de Dieu, dont j'étais mais vraiment parfaitement conscient, eh bien, c'est lui, Jésus, qui l'a pris à la croix pour moi. Alors que j'avais entendu parler de ces choses, là, ce soir-là, il y a eu comme une révélation de cette réalité bouleversante que Jésus, à la croix, a pris sur moi la condamnation, la malédiction que moi, je méritais pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Et là, sans, je dirais avec vraiment un minimum de connaissances et ultra basique, hein, le peu que j'avais entendu dans les discussions dans lesquelles j'étais beaucoup plus sur le terrain d'essayer de convaincre, de convertir les gens aux rosicruciens ou à je ne sais quoi, là, de manière, moi j'irais presque mystérieuse, mais je l'ai compris par la suite, c'est simplement une révélation de Dieu, j'ai pris conscience de la croix de Jésus-Christ, de sa mort à la croix pour moi. Il a été livré pour mes péchés. Et tout à coup, ce soir-là, mais il y a eu comme un moment, comme si des écailles tombaient de mes yeux. Comme si tout à coup, je passais des ténèbres à la lumière, mais une lumière éblouissante. Et là, j'ai eu le sentiment que le poids de mon péché, la saleté qui était collée sur moi, tout à coup, elle partait. Vous savez, comme si... On imagine une journée très très chaude, n'est-ce pas, qui avait fait chaud, qu'on a transpiré toute la journée, etc., puis qu'on prend un bon bain ou une bonne douche, n'est-ce pas, ou un bon plongeon, et que tout à coup on se sent tout, tout propre. Et là, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très fort d'avoir été lavé, purifié. Et là, mes yeux donc, se sont ouverts et j'ai pris conscience de la réalité de Dieu. Dieu, qui était resté un concept très, très éloigné, quelques mois ou un an ou deux avant, je disais que Dieu n'existait pas. Là, Dieu est devenu mon propre Père. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu est devenu tellement proche de moi, le plus proche être qu'on puisse imaginer. Et je me souviens, je l'ai même noté d'ailleurs sur un petit journal personnel où j'écrivais un peu mon parcours personnel. Et je me souviens quand j'écrivais même deux, trois jours après cette expérience, je l'écrivais mais avec une abondance de larmes qui coulaient des yeux par rapport à ce que j'avais vécu qui correspondait pour moi à cette quête du sens de la vie qui ne trouve sa réponse que dans celui qui nous a créés. Alors voilà, je me suis arrêté un peu sur cette expérience personnelle parce que je pense que tout enfant de Dieu, à un moment ou à un autre, passe par ce passage des ténèbres à la lumière. Alors c'est vrai, parfois, quand on grandit dans une famille chrétienne, le processus se fait de manière légèrement différente selon les personnes parce qu'il n'y a pas deux façons d'entrer dans la réalité du royaume de Dieu. Chacun, nous sommes différents les uns des autres. Il n'y a pas deux flocons de neige qui sont exactement pareils. Donc il n'y a pas deux personnalités, non, à plus forte raison, qui soient exactement pareilles. Il n'y a pas deux parcours qui soit exactement pareil, mais dans les parcours de passage de la mort à la vie, il y a quelques repères qui se retrouvent chez chaque personne et que la Bible nous dévoile. Et dans ces repères, il y a cette expérience de la prise de conscience de son péché, et pour parler en termes très très complexes, là, de ce qu'on appelle la substitution pénale. Expression un peu bizarre que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais en fait que j'avais compris au plus profond de moi-même que quelqu'un s'est substitué à ma place pour porter la peine que moi, je méritais. Mais pour cela, faut-il encore que les yeux s'ouvrent, que Dieu nous éclaire. Sans quoi, je crois que c'est totalement impossible. Et c'est dans le texte qui a été lu tout à l'heure, dans Éphésiens 2, Paul commence cette section par dire « Nous étions morts dans nos offenses. Nous étions dominés par la puissance. Nous marchions selon le train de ce monde ou selon l'empire de ce monde, selon la pression qu'exerce et qui nous modèle dans le monde. Nous vivions selon aussi le prince, l'action du prince, de la puissance de l'air, comme il le dit, pour parler du diable. Et nous vivions aussi selon les convoitises de la chair. Nous étions dominés, nous exécutions, comme le traduit la Colombe, les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions, il dit, des enfants de colère, destinés à la colère. Mais, heureusement, il y a un mais. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, vous connaissez ce texte, il nous a fait passer, il nous a vivifiés avec lui. Et c'est ce passage de la mort à la vie qui est au cœur, je dirais, de la révélation de Dieu. Dieu a entrepris une œuvre de salut extraordinaire pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Tous les textes de l'Ancienne Alliance annoncent cette circoncision du cœur, annoncent ce changement profond que Dieu va opérer dans l'humanité. Il est dit dans Jérémie 31, qui annonce de manière puissante la nouvelle alliance, que dans l'ancienne alliance, le peuple n'a pas persévéré dans la loi de Dieu. Il n'a pas pris à cœur non plus. Et Dieu, il est dit lui-même, en voyant l'attitude du peuple, ne s'est pas soucié d'eux. Mais il annonce, Jérémie, et c'est repris dans Hébreux chapitre 8, vous connaissez certainement ce texte, il annonce que dans les jours à venir, Dieu va faire une nouvelle alliance avec Israël, avec la maison d'Israël, mais là on sent que ce n'est pas qu'Israël physique, parce que l'Épître aux Hébreux explique que cette alliance, il va la faire avec les nations qui vont se convertir, avec une nouvelle humanité qu'il va créer. Cette alliance, il va la faire de telle façon à ce que sa loi ne restera pas quelque chose extérieur à nous-mêmes, mais s'inscrira au plus profond de notre cœur. Dieu écrira sa loi au plus profond de nous-mêmes. Il gravera cette loi dans notre mentalité, comme le traduit Alfred Kuhn dans Paroles vivantes. Et Dieu promet que dans la nouvelle alliance, tous le connaîtront. Nul n'aura besoin d'enseigner son concitoyen en disant « Connais le Seigneur », tous me connaîtront. Tous ceux qui entreront dans cette alliance, même tout petits dans la foi, ils auront une connaissance intuitive et intérieure de Dieu, contrairement à la première alliance qui n'était qu'extérieure et qui n'atteignait jamais le plus profond du cœur. Dans cette nouvelle alliance, Dieu s'engage à inscrire sa loi plus profond de nous-mêmes et, comme le disait aussi Jérémie, à faire en sorte que nous puissions le suivre. Et il annonce que Dieu, en gravant sa loi dans nos cœurs, il réglerait de manière définitive la question du péché, puisqu'il dit « Je ne me souviendrai plus de leur péché ». Comme le dit la NBS, la Nouvelle Bible Second, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Comme ce texte de l'Ancien Testament qui nous dit dans les petits prophètes, Dieu prendra notre péché et le mettra au fond de la mer. Et plus personne pourra y accéder. Je crois que c'est Corrie ten Boom qui disait, il mettra même une pancarte dessus, pêche interdite. Dieu veut véritablement effacer à jamais nos péchés, et ne plus se souvenir de nos péchés. Et dans la promesse de cette nouvelle alliance, eh bien Dieu va reconstruire notre vie et nous donner d'avoir part à la vie nouvelle en Christ. Tout ça se fait dans l'union avec Christ. Et le passage que j'ai donc pensé vous partager, après cette longue introduction, j'aimerais vous lire un texte que je ne vais pas commenter beaucoup. C'est dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, c'est le texte que j'aimerais vous laisser. C'est un texte d'une grande densité, mais il touche vraiment les vérités les plus fondamentales de ce que Dieu opère en Jésus-Christ pour faire de nous une nouvelle création. Parce que comme le dit Paul aux Galates, ce qui est important, c'est ni la circoncision, ni tous ces rites extérieurs, mais c'est d'être une nouvelle créature, c'est d'être une nouvelle création. Alors dans Colossiens chapitre 2, je vais vous lire quelques extraits de ce texte moi je trouve percutant et qui, comme on va le voir, met en avant de manière impressionnante la puissance de la croix. Alors il annonce dans le contexte, je lis verset 8 du chapitre 2, « Prenez garde, prenez garde ». La vie chrétienne, ce n'est pas toujours de toute facilité, hein, même si Dieu opère des prodiges et des miracles dans nos vies, c'est un combat qui n'est pas facile. Il y a des forces qui continuent de s'exercer. Tout en étant sur cette terre, nous sommes soumis à des pressions pour nous empêcher d'aller l'avant. Et des pressions idéologiques pour essayer de nous laver un peu le cerveau et nous éloigner des vérités les plus fondamentales que Dieu nous a révélées en Jésus-Christ. Et le diable est très fort, n'est-ce pas, entre autres à travers tous les médias, à travers la pression de la télévision, la radio, des journaux. Et je ne suis pas contre ces choses, mais ça peut nous modeler, nous façonner de manière impressionnante et faire de nous des proies, tout en étant enfants de Dieu, qui nous égare. Une fois qu'on est sous la prise de ces forces, mais malheureusement, on n'avance plus beaucoup avec Dieu. Alors Paul met en garde, c'était déjà au 1er siècle, les choses n'ont pas beaucoup changé, mais ont pris des formes un peu différentes. Verset 8, prenez garde, que personne, ne fasse de vous sa proie, au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments. Stoïkéa, un mot un peu bizarre en grec, là, un mot qui parle des principes élémentaires du monde, des grandes règles de logique, de la doctrine du monde qui s'applique un peu partout dans les cultures, qui tient le monde dans des sortes de griffes et qui modèle le monde. Il dit bien, vous, attention, méfiez-vous de ceux qui viendraient avec une philosophie trompeuse, selon la tradition des humains, selon les éléments ou les rudiments du monde, et non pas selon Christ. Car en Christ, verset 9, c'est en lui, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous, en lui, vous avez cette plénitude, vous avez part à cette plénitude. On peut traduire plusieurs façons, vous êtes comblés en lui, mais vous avez part à cette plénitude qu'il apporte. Lui qui, poursuit Paul, est la tête de tout principat et de toute autorité, de toutes ces puissances qu'on peut imaginer. Il les a vaincus de manière définitive, il en est la tête maintenant, le chef, même de toutes les puissances des ténèbres, c'est lui qui a l'autorité, comme il le dira Paul un peu plus loin. Alors il dit donc, méfiez-vous que personne de vous ne fasse sa proie, pour vous éloigner de l'essentiel, vous éloigner de Christ, car en lui, et encore une expression très particulière, hein, moi il m'a fallu du temps pour en comprendre un peu la portée, je pense que je n'en comprends qu'une toute petite partie de la richesse de cette expression en Christ, en lui, c'est-à-dire uni à lui, incorporé à lui, vous bénéficiez, comme le cep et le sarment qui puise sa vie dans le cep, eh bien vous maintenant en lui, vous avez part à cette vie de plénitude, dit là l'apôtre Paul. Et il va reprendre pour dire, voilà, quelles sont les richesses que nous avons en lui. Et la richesse qui vient à l'esprit de l'apôtre Paul dans le verset 11, c'est d'abord la promesse de la circoncision du cœur qui s'accomplit en Jésus-Christ. Promesse derrière laquelle Paul va concentrer, en fait, la promesse de la nouvelle création. La promesse de la victoire de Dieu, de la nouvelle alliance que Dieu avait promise au monde, elle est là, en Christ, accessible. Si nous ne nous laissons pas tromper par toutes sortes de puissances qui cherchent à nous égarer, eh bien il nous dit « en lui ». Et il développe un peu en quoi nous sommes comblés en Christ. Verset 11 « En lui vous avez aussi été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines. » Alors bien sûr la circoncision pour les Juifs c'était un rite extrêmement important, en coupant le prépuce du petit garçon, c'était un signe que Dieu avait donné à Abraham et qui était appliqué dans l'histoire d'Israël, qui devenait le signe d'entrée dans l'alliance de Dieu. Eh bien vous, il dit, vous avez été circoncis d'une autre circoncision, qui n'est pas une circoncision extérieure, mais qui va atteindre le plus profond de votre personnalité. Pas une partie du corps, mais là, au plus profond de nous-mêmes, Paul, il dit, vous avez été, vous, circoncis. D'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, la circoncision du Christ, qui consiste, il dit, dans le dépouillement du corps de la chair. Comme traduit la Bible de Jérusalem, le dépouillement complet du corps de la chair. Une expression étrange, mais qui désigne la puissance du péché au plus profond de nous-mêmes. Pour parler de la chair, c'est la réalité humaine qui est atteinte par le mal, qui est atteinte presque, on dirait, génétiquement dans une sorte de maladie qui l'amène à être en révolte contre Dieu, d'une révolte incurable. Eh bien Dieu, comme seul remède qu'il a trouvé, c'est d'opérer un dépouillement, un coup de scalpel là, qui va atteindre au plus profond de notre personnalité ce que la Bible appelle le corps de la chair. Il a dépouillé en nous le corps de la chair. Même expression qui viendra plus loin pour dire qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres. Eh bien, il a atteint au plus profond de nous-mêmes une sorte de revêtement qui habillait notre personnalité, que la Bible appelle la chair. Il l'a atteint pour opérer une circoncision. Et il dit la circoncision du cœur. C'est une circoncision qui atteint le plus profond de nous-mêmes et qui est la circoncision du Christ. Alors, il donne encore quelques développements. Comment a-t-il opéré cette circoncision? Ce n'est pas un petit coup de couteau, un petit coup de ciseau. Il l'a opéré. Pour cela, il a fallu une œuvre époustouflante. Il a fallu que Jésus lui-même revête la condition humaine de manière complète. Paul dira dans Romains 8, il a pris sur lui la nature humaine, lui qui n'a pas connu le péché. Il a revêtu la nature de péché, Paul le dira dans 2 Corinthiens aussi, mais dans Romains 8, 3, il dit « Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, pour régler la question du péché, eh bien, il a envoyé son Fils pour condamner le péché de manière définitive. » Donc, pour opérer cette circoncision du cœur, Jésus a dû revêtir la chair au sens humain du terme. Il a dû revêtir la condition humaine, sans le péché bien sûr, pour pouvoir prendre sur lui les conséquences du péché et la malédiction du péché. Il a donc revêti sur lui la nature humaine. Il s'est fait homme pour prendre sur lui notre condition humaine et pouvoir à la croix régler à jamais la question du péché. Et devenir, comme le dira Paul dans 2 Corinthiens 5, dans 1 Corinthiens 15 et 2 Corinthiens 5, pour être le dernier Adam, pour que en lui, en mourant, tous puissent mourir. Toute l'humanité, en tout cas qui veut accepter d'entrer dans ce salut, puisse aussi mourir. Jésus, donc, en revêtant la condition humaine, il va prendre sur lui tout le nécessaire pour que le péché puisse être collé sur lui et qu'il prenne sur lui la malédiction. Et c'est dans ce processus que Paul reprend très souvent dans ses épîtres, dans l'épître aux Romains, Colossiens, Éphésiens, etc., que Dieu va nous unir dans la mort et la résurrection de Christ pour que la chair puisse être dépouillée en nous, pour qu'une nouvelle vie puisse émerger en nous, nous puissions, par la puissance de l'Esprit, avoir part à la circoncision du cœur, dans l'union avec Christ. Et c'est ce que Paul dit dans le verset 12, des versets qui m'ont été très longtemps énigmatiques, je dirais, mais qui s'éclairent de plus en plus à mes yeux. Verset 12, enseveli avec lui par le baptême. Alors c'est vrai que là, il y a un jeu de mots, le baptême, il y a aussi beaucoup de débats. Le baptême, de quoi parle-t-il? Le baptême, c'est à la fois le baptême d'eau, mais c'est aussi le baptême de l'esprit, ce baptême que Jean-Baptiste annonçait, qui serait apporté par Jésus-Christ. Ce fameux baptême de l'esprit qui résume tout le message du Christ et la mission du Christ pour nous unir à lui par la puissance de l'esprit et nous faire naître à la vie de Dieu et nous permettre d'être ce véritable peuple de Dieu. Eh bien, le baptême, il dit, vous avez été maintenant, verset 12, enseveli avec lui par le baptême. Vous vous êtes aussi réveillé ou ressuscité ensemble, en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, verset 13, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivant avec lui. Et comment il fait cela? Il nous dit, en nous faisant grâce de toutes nos fautes. Il nous fait grâce de toutes nos fautes parce que quelqu'un a pris sur lui cela. Il le reformule encore autrement. Il a effacé, verset 14, l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. C'est comme s'il y avait... On peut imaginer, hein, des fois, dans certains délits aux États-Unis, en particulier quand il y a des gens qui sont des délinquants sexuels, on affiche les noms publiquement dans le quartier, quoi, pour dire attention, telle personne a eu un délit sexuel. Aujourd'hui, bon, voilà, dans les centres de vacances, j'ai dirigé un certain nombre de centres de vacances, on peut savoir, on peut avoir accès, en tout cas, on demande l'extrait de casier judiciaire pour savoir si la personne n'a pas eu de problème avec la justice, et en particulier dans tout ce qui touche au monde sexuel, parce que c'est totalement interdit de les embaucher avec les enfants. Alors, on peut imaginer qu'il y a un endroit, un acte visible. On peut imaginer une adresse internet, là tout le monde peut aller, sur lequel se trouve chacune de nos vies inscrites, ou plutôt une sorte de biographie de nos vies, comme le font d'ailleurs aux États-Unis, hein, n'est-ce pas, il y a des débats autour de ça. Ils arrivent à afficher toutes les personnes qu'ils veulent, avec tout l'historique de tout ce qui a été publié sur Facebook, tous les emails qui ont été... Pour chaque personne, ils ont une quantité de données impressionnante. Dieu n'a pas besoin de toutes ces méthodes-là. Pour Dieu, il est infiniment au-delà de tout ça. Eh bien, il y a inscrit pour chacun d'entre nous tout notre parcours, de la première de nos pensées à la dernière, de nos actes, tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a un acte en particulier sur lequel est inscrit, comme un casier judiciaire céleste, sur lequel est inscrit toutes nos fautes, qui ont offensé de manière abominable Dieu. Le Dieu de sainteté qui ne peut pas voir le mal, inscrit toutes nos fautes. Et il y a un acte sur lequel, nous dit ce passage, étaient inscrites toutes nos fautes et toutes les infractions à la loi de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait de cet acte? Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, c'est-à-dire quelque chose qui était totalement dans, selon la loi de Dieu. Eh bien, cet acte qui nous était contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Je ne sais pas si on imagine toutes les fautes que nous avons commises, inscrites sur une sorte de casier judiciaire. Dieu est prêt à effacer tout, tout, complètement tout. Et c'est ce qu'il a fait à la croix, parce que à la croix, Jésus a effacé complètement cet acte sur lequel étaient inscrites toutes nos fautes. Il l'a effacé et il l'a cloué à la croix. Parce que c'est lui, Jésus, qui a pris notre péché. Et en étant lui cloué à la croix, il a éteint en quelque sorte la malédiction qui reposait sur chacun d'entre nous à cause de toutes nos infractions à la loi de Dieu. Et ensuite, ce qui découle de cela, je termine sur ce verset, il a dépouillé les principats, les autorités, les dominations, il parle de forces spirituelles, de forces occultes, des puissances de ténèbres. Il dit, les a dépouillés et les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Alors, il y a des grands débats entre exégètes, théologiens. Là, quel rapport entre la croix, l'effacement des fautes, l'expiation, la substitution et la victoire sur les ténèbres, la victoire sur le diable, la victoire sur les principats, les autorités? Quel est le lien entre les deux? C'est peut-être pas facile à le voir en première lecture, mais en étudiant un peu plus de la parole, je pense que l'explication la plus simple, c'est de dire que les dominations, ou le diable qui est l'accusateur des frères, qui accuse jour et nuit, n'a accès à l'être humain, ne peut répandre sa malédiction, son venin sur l'être humain que sur une seule base. C'est la culpabilité, la condamnation que nous méritons. Le fait que nous avons enfreint la loi de Dieu donne un accès au diable à chaque être humain. On le voit encore aujourd'hui, quand on est sous la culpabilité, on est complètement paralysé, n'est-ce pas? Eh bien, le diable et les dominations n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes d'agir sur des personnes, sauf lorsqu'il y a condamnation, lorsqu'il y a culpabilité. Et Jésus, en effaçant l'acte sur lequel est inscrit toutes nos fautes, en expiant nos fautes, en prenant nos péchés pour nous à la croix, Jésus va accomplir l'acte par lequel non seulement le diable, non seulement je dirais nos fautes sont pardonnées, mais en même temps il va ôter l'accès que les démons pouvaient avoir dans nos vies. Et je pense que c'est dans ce sens, comme d'ailleurs plusieurs théologiens l'ont bien montré, c'est dans ce sens que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement à la croix. Peut-être qu'il y a encore d'autres éléments derrière tout ça, mais en tout cas, maintenant, concrètement, ça veut dire que le diable et les démons ont été livrés publiquement, en spectacle, à cause du triomphe de la croix, parce qu'à la croix, Jésus, il a porté nos péchés. Parce que maintenant, l'accusateur qui accusait jour et nuit, il ne peut plus nous accuser, si bien évidemment nous recevons ce pardon, si nous l'acceptons, si nos yeux s'ouvrent dessus, sur cette réalité, si nous ne nous laissons pas à nouveau prendre comme une proie à toutes ces philosophies trompeuses qui nous égareraient de ces réalités que nous avons en Christ, nous pouvons dire maintenant que nous sommes pardonnés, que Dieu nous accueille. Et quand on sait que Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Quand on sait que Dieu est de notre côté, qui pourra accuser les élus de Dieu? Mais même tout le monde entier qui se réunirait pour faire un grand procès comme à Nuremberg ou des choses comme ça, mais si tout le monde entier se mettait contre nous, mais quel est le poids de cela? Ce qui compte, c'est d'être déclaré juste par Dieu. Parce que la figure de ce monde passe très vite, et bientôt le seul devant qui nous aurons des comptes à rendre, c'est Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Alors je voulais vous partager quelques-unes de ces facettes de la croix qui m'ont profondément marqué dans mon parcours avec le Seigneur, mais je suis sûr qu'ils vous ont vous aussi marqué dans votre marche avec le Seigneur, parce que nous touchons du doigt, même si je l'ai fait de manière extrêmement sommaire et rapide, au cœur de la rédemption, du salut qui est en Jésus-Christ, qui a coûté un prix énorme pour Dieu, le prix de la mort de son propre Fils, de celui qui est appelé l'unique engendré de Dieu, l'unique, le plus cher que le Père puisse avoir, son unique, il l'a livré pour nous, pour que nous puissions maintenant avoir accès à ce pardon, être adoptés, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, adopté complètement par Dieu, entrer dans cette alliance avec Dieu, cette nouvelle alliance, cette alliance éternelle avec Dieu, et avoir la certitude que Dieu est vraiment avec nous. Non pas sur la base de nos mérites, non pas sur la base de tout ce qu'on aurait pu proposer, présenter à Dieu, mais sur la base seule de sa grâce, que nous célébrerons, comme dit l'Épître aux Éphésiens, durant l'éternité. Prions ensemble. Je te rends grâce, Seigneur, pour la grandeur de ton évangile, la gloire de ton évangile. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir pris à la croix notre condamnation, ma damnation. Je te loue, je t'exalte pour ce que tu as fait. Et notre désir, Seigneur, c'est que nos yeux puissent s'ouvrir pour que nous ne soyons pas la proie de toutes sortes de mensonges qui sont inculqués par ce monde, qui nous éloigne de toi, qui nous empêche de voir ces réalités spirituelles. Nous prions que tu nous renouvelles dans notre vision de ta personne et de ton salut. Merci Seigneur de nous avoir unis dans ta mort et ta résurrection pour régler non seulement la question de la condamnation que méritaient nos péchés, mais aussi pour nous dépouiller du corps de la chair, pour nous donner un cœur nouveau, pour mettre ton esprit en nous, pour nous permettre maintenant en tant qu'enfants de Dieu de marcher véritablement en nouveauté de vie. Je demande une bénédiction spéciale aussi sur mes frères et sœurs de cette Église. Nous voulons te demander d'encourager, de fortifier ton peuple pour aller de l'avant pour toi, pour être ces ambassadeurs du Dieu vivant et vrai qui nous a tant aimés. Nous proclamons encore ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Rénal, merci beaucoup de ce partage ce matin. Merci Craig de nous avoir aussi interpellés. sur la puissance de Dieu. On a vécu un culte qui était chaud, chaleureux, chaud, oui, sympathique. Merci à chacun d'y avoir participé. J'aimerais vous donner les annonces concernant cette semaine. Non, je ne vais pas commencer par ça, en fait. Vous donner des nouvelles de Jacques Cuypers. Si vous avez suivi sur le site, puisqu'on n'avait pas la nouvelle dimanche passé, Jacques a été accidenté, il a été brûlé grièvement en brûlant des choses dans son jardin. Il est au Grand Brûlé à Lyon depuis cette semaine. Il va être greffé, Guylaine est là, il va être greffé mardi. Je parle de Jacques, le mari de Guylaine, hein. Jacques père comme on dit, hein. Puisqu'il y a un Jacques fils, il y a un Jacques père. Voilà, donc il va être opéré et greffé cette semaine, mardi. Donc on veut vraiment, vraiment, vraiment prier pour Jacques. Et je vais demander à John de venir déjà pour prier pour lui. Et je vous invite dans la poursuite de ça, de venir mardi à la réunion de prière aussi. Comme ça, on pourra aussi encore prier pour Jacques.
Je vous invite tous à vous unir dans la prière pour Jacques. C'est entre Dieu, nous sommes rassemblés en la présence du Dieu trois fois saint, du Dieu tout-puissant. Nous sommes rassemblés, Seigneur, en la présence du Dieu qui a créé, mais qui peut aussi guérir. Nous sommes rassemblés, Seigneur, en la présence du Dieu qui a sauvé les hommes, mais qui a sauvé chacun d'entre nous et qui nous connaît jusqu'au moindre cheveu sur notre tête. Et Seigneur, ce matin, nous aimerions tous ensemble, que nous connaissions Jacques ou pas, intercéder pour lui. Et faire appel à toi, Seigneur, au-delà des médecins et de la médecine, afin, Seigneur, que tu le guérisses. Seigneur, que tu touches son corps et que tu soulages déjà ses souffrances, mais aussi que tu permettes que les médecins œuvrent le mieux possible, Seigneur, pour l'aider à se rétablir. Mais Seigneur, nous voulons croire et nous recevons aussi ta parole qui dit que dans les moments d'épreuve, c'est aussi des instruments que tu utilises, Seigneur, pour nous rendre meilleurs, plus parfaits encore, plus saints. Et Seigneur, je voudrais te demander que dans ces jours, pour Jacques, pour sa famille, Seigneur, tu puisses être présent et que au sein de cette épreuve, Seigneur, tu puisses aussi te manifester à eux, affermir leur foi, leur espérance, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais aussi sentir, Seigneur, que ton corps est un corps réel qui prie et qui intercède pour eux. Seigneur, nous avons de l'amour pour Jacques et pour sa famille, mais nous savons que ton amour pour eux est encore bien plus grand. Et Seigneur, c'est vraiment à cette bonté que nous faisons appel ce matin, afin que tu sois avec lui, que tu le soulages, que tu le guérisses, mais aussi, Seigneur, que tu leur rapproches encore plus de toi. Au nom de Jésus, amen.
Alors, on mettra des nouvelles sur le site. Guylaine ne sera pas beaucoup là, elle a déjà beaucoup de choses à faire. Et donc, si vous voulez des nouvelles plus directes, vous nous appelez, Lydie ou moi, on vous donnera les nouvelles. Voilà. En tout cas, Guylaine, salue bien Jacques de la part de tous. Dis qu'on pense à lui très fort, on est avec lui, tout près, comme s'il était assis là. Ok, merci. Je rappelle notre culte dimanche et puis je voudrais donner encore d'autres sujets de prière. On s'est engagé ce mois, vous vous souvenez, à prier pour Mélanie, important, prier pour Mélanie pour son mois d'août spécial à Madagascar, important de s'unir dans la prière. Et puis pour la famille Haddad qui était là dimanche passé au Liban, qui est reparti au Liban, pour ce qu'ils nous ont apporté, et c'est aussi dans le sens où ils nous ont demandé de prier. Donc voilà, c'est important, les parents de Sarah, important aussi de prier pour eux, ils comptent sur nous. Et puis un autre sujet de prière, pour que nos amis là-bas puissent trouver un champ pour mettre leur caravane et leur tente et pouvoir faire leur mission. Voilà, je n'ai pas d'autres nouvelles. Mardi soir, réunion de prière, on vous attend nombreux pour partager ces sujets ensemble. Voilà, je vous invite à vous lever, je vous lirai encore deux petits versets. On en a parlé ce matin de ces versets. On ne les a pas lus, mais on en a parlé ce matin. Et puis, peut-être spécialement Guylaine, te donner ces versets pour ton mari aussi. C'est à la fin de l'épître de Paul, ce qu'il écrit aux Galates, il dit « Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais avant tout d'être une nouvelle créature. » C'est ce qu'on a entendu ce matin. « Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment.